Il est 18h précisément sur France Culture, le journal Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'avenir politique du Burundi entre les mains du général Ndayishimiye, adoubé par Pierre Nkurunziza. Précision dans un instant de Nabila Hamel. Le régime chinois qui se structure et confie au Premier ministre l'animation d'un groupe spécial de gestion de l'épidémie de coronavirus. Et en France, le ministère de l'Intérieur qui acte le retrait de la grenade Gli F4 à l'origine de bien des mutilations. Décryptage d'une décision avec Diane Berger. Au Burundi, un congrès extraordinaire du parti présidentiel livre le nom du successeur de Pierre Nkurunziza qui aura renoncé à la surprise générale à un troisième mandat en juin 2018. En 2015, sa candidature avait conduit à un bain de sang, 1200 morts et 400 000 déplacés. Bonsoir Nabila Hamel.
Bonsoir.
Nabila, Pierre Nkurunziza passe les rênes d'une nation fracturée à l'un de ses proches, le général Évariste Ndayishimiye.
Oui, il promettait depuis quelques années de ne pas se représenter, mais avant cela, il avait tout de même remanié en 2017 la Constitution de sorte qu'elle pouvait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'à 2037. L'homme est encore jeune, je parle de Pierre Nkurunziza, 55 ans, très peu regardant sur les méthodes musclées qui ont réduit ses opposants au silence ou à l'exil. Il est à l'origine de la crise politique, mais aussi économique, dans laquelle le pays a sombré. Le président burundais, évangélique fervent, ne faisait jamais de visite dans le pays sans son équipe de football et sa chorale. Il a fait dire des prières pendant 3 jours avant de mettre en scène aujourd'hui sa décision officielle de renoncer à un quatrième mandat. Un renoncement qui ne peut être pas tout à fait un choix personnel, estime l'écrivain et journaliste burundais David Gakunzi.
La parenthèse Nkurunziza explose. Et je crois que cela est dû à une combinaison de la contestation sociale locale et aussi les pressions internationales qui ont fait que l'assise de son pouvoir au niveau interne a été fragilisée. Je crois que nous sommes là dans un cas qui démontre que les sanctions et les pressions diplomatiques peuvent contribuer à débloquer des impasses politiques, des impasses humaines, parce qu'on était là au bord même d'un génocide.
Le Burundi, voisin du Rwanda, a connu avant même l'arrivée au pouvoir de Nkurunziza des guerres ethniques. Et il est vrai que sous sa présidence également, comme le disait David Gakunzi, l'argument ethnique n'était jamais loin pour justifier des campagnes de répression. Le nouveau candidat à l'élection du 20 mai prochain est un général choisi par le parti du président sortant. Reste à savoir quelle influence pourrait encore avoir le président Nkurunziza dans le pays.
Merci à vous Nabila Hamel. Quel avenir prêté à cette politique de la main tendue impulsée il y a peu par Bamako. Avant-hier, les autorités maliennes faisaient publicité de leur intention de discuter avec des groupes terroristes. Le haut représentant du président Ibrahim Boubacar Keïta pour le centre, Diokunda Traoré, a annoncé avoir mandaté des émissaires et ce matin, non loin de Ségou, dans le centre du pays, le camp de gendarmes de Sokolo a été attaqué par plusieurs dizaines de combattants, 19 morts et 5 blessés selon un dernier bilan. Et selon les premiers témoignages, les assaillants seraient repartis avec beaucoup de matériel. Les Nations Unies s'inquiètent de l'avenir de la trêve en Libye compte tenu des nombreuses violations de l'embargo sur les armes constatées ces 10 derniers jours à l'est comme à l'ouest du pays. Le navire humanitaire Ocean Viking, avec à son bord 223 réfugiés, attend un port sûr où débarquer. Le dernier sauvetage a eu lieu la nuit dernière dans la zone de secours et de recherche de Malte. 72 migrants se trouvait à bord d'une embarcation sur le point de sombrer. Les forces afghanes ont lancé plusieurs attaques aériennes et terrestres ces dernières 24 heures et supprimé 51 talibans, selon le ministère de la Défense. Offensive massive de nature à nuire aux négociations entre les deux parties en cours à Doha, au Qatar. Il est arrivé que des policiers soient obligés de les utiliser pour se désengager d'une menace et que des manifestants, les prenant volontairement en main, se blessent gravement. C'est la raison pour laquelle il nous faut retirer les Gli F4. C'est en ces termes que le ministre de l'Intérieur a annoncé l'abandon de cette arme dite intermédiaire. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Diane, il faut lire entre les lignes avec vous, décrypter ce qui pourrait bien appartenir à la rubrique coup de com'.
En effet, la Gli F4 était critiquée depuis plusieurs années. Il s'agit d'une grenade lacrymogène classée comme arme de guerre. Elle était pourtant utilisée en manifestation. Elle y a fait au cours des derniers mois au moins 33 blessures graves, dont 5 mains arrachées. Un collectif d'avocats a régulièrement plaidé pour son interdiction. Parmi eux, Maître Ainhoa Pasquale. Selon elle, l'annonce de Christophe Castaner ne répond pas du tout à leurs attentes.
Le gouvernement ne retire pas ces grenades de l'arsenal. Depuis déjà l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc depuis 2016, on sait que les stocks ne seront pas renouvelés, puisque constatant la dangerosité et la défaillance de ces armes, il a été décidé de ne plus en commander des nouvelles, mais que par contre, ils seraient utilisés jusqu'à épuisement. Et la date d'épuisement qui avait été annoncée à l'époque, c'était 2020-2021. Et on sait déjà que les policiers et les gendarmes sont en détention d'une nouvelle arme, la grenade GM2L, qui en réalité équivalente à la grenade Gli F4, qui donc causeront les mêmes blessures et les mêmes mutilations que la précédente, la grenade Gli F4.
Malgré tout, pour David Dufresne, journaliste de Mediapart, qui comptabilise depuis des mois le nombre de victimes de violences policières, cette annonce amorce le début d'un changement.
Cette communication dénote une forme de fébrilité, une forme de prise de conscience de la part d'une partie de l'exécutif, de la part d'une partie du corps policier, quant à l'utilisation de ces armes-là. Donc, évidemment qu'il y a une part de communication, puisqu'en fait, finalement, c'est simplement un avis de décès. N'empêche que ça intervient au moment où il y a un débat sur les violences policières, débat qui n'avait jamais fait autant rage depuis des décennies en France. Le gouvernement était un peu obligé de donner des gages. Et n'empêche qu'aujourd'hui, depuis midi, la police française n'est plus dotée, a priori, d'une des armes intermédiaires dont le ministre lui-même vantait les mérites il y a encore quelques semaines.
Et le ministère de l'Intérieur doit dévoiler justement dans les semaines qui viennent le futur schéma national du maintien de l'ordre.
Merci à vous Diane Berger. Venons-en à la lutte en Chine contre le coronavirus avec des autorités chinoises qui prennent des quantités de décisions et à cet égard qui ont installé une structure dédiée à la gestion de l'épidémie. Dominique André est à Pékin. Elle répond à notre confrère de France Info, Bernard Thomasson.
C'est le premier ministre chinois Li Keqiang qui a été nommé à la tête de ce groupe spécial chargé du combat et du contrôle du coronavirus. Aujourd'hui, les autorités chinoises ont également donné une conférence de presse et on a appris que le virus n'était pas aussi puissant que le virus du SRAS, mais il est plus contagieux. La période d'incubation peut aller jusqu'à 2 semaines et une contagion est possible durant cette période. Sa capacité de propagation s'est aussi renforcée, a dit le responsable de la Commission chinoise de la santé. Les conséquences de l'aggravation de la situation se multiplient. La Chine vient de se retirer de l'organisation des tournois de qualification du football féminin pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo cette année. C'est Sydney qui sera la ville hôte à la place de Nankin.
Et les mesures sont de plus en plus drastiques pour tenter d'enrayer l'épidémie.
Oui, la province du Guangdong dans le sud, qui est la province la plus peuplée de Chine, impose le port du masque à ses 110 millions d'habitants. Les usines de fabrication de masques tournent à plein régime et la Chine en importe en urgence. Notamment aujourd'hui, des masques sont arrivés des Philippines à Wuhan. Dans les grandes villes comme Pékin ou Shanghai, le masque est vivement recommandé. Les agences de voyage chinoises ont l'interdiction de vendre des voyages en groupe en Chine et à l'étranger à partir de demain. Wuhan, le foyer de l'épidémie, est une ville fantôme, racontent les habitants. Des pays s'apprêtent à évacuer leurs ressortissants. Un avion est attendu mardi à Wuhan pour rapatrier le personnel diplomatique du consulat. Une évacuation des Français qui vivent à Wuhan est aussi en cours de préparation, mais aucune date n'a été donnée pour le moment. Certains Français sont d'ailleurs très inquiets et demandent à être évacués par avion en France.
Et parmi ces Français très inquiets qui s'impatientent figure Béatrice, habitante de Wuhan depuis 3 ans.
Moi, je suis confinée depuis mercredi. Je suis pas sortie depuis mercredi. C'est vraiment très, très pesant ces jours confinés à la maison avec en plus à l'extérieur un temps assez tristounet et des rues complètement vides. Aucune activité dans la ville. On n'est pas bien, quoi.
Béatrice, quel est votre message que vous voudriez faire passer aux autorités françaises ?
Ah mais faites quelque chose, pensez à nous qui sommes là au milieu de ce chaos à Wuhan. Tous les jours on entend qu'il y a de plus en plus de cas, on nous annonce qu'il y a des hôpitaux qui sont construits, enfin que si ces hôpitaux sont construits, c'est certainement qu'ils prévoient qu'il va y avoir de plus en plus de cas de personnes contaminées. Ça veut dire que on aura de plus en plus de balles pour bouger de chez nous, que tout va être quadrillé. Donc ça veut dire qu'on est complètement cloîtrés pour on ne sait pas combien de temps, peut-être des semaines.
Des propos recueillis par Omar Waman. L'université de Nantes va porter plainte après la découverte de tags racistes sur des murs du pôle étudiant. Des croix gammées, des croix celtiques ainsi que des inscriptions à caractère raciste ont notamment été retrouvées hier matin. Avant de vous livrer les très grandes lignes météo de demain, je vous laisse le soin, Frédéric Martel, de rendre hommage à celui que l'on appelait le prince bleu de Montmartre, à savoir Michou.
On l'a appris en effet cet après-midi, Mathieu, la mort donc de Michou, célèbre notamment pour le cabaret qui porte son nom, une figure de la nuit parisienne, une icône de la nuit urbaine, tout simplement, une star aussi de la nuit travestie avant l'heure, dès les années 50, en son temple des joyeux lurons, et parfois d'ailleurs des chauds lapins également. Michou portait ses lunettes bleu pétrole et ses artistes chantaient en playback. Lui aussi aurait aimé être un artiste. C'était kitsch et même un peu camp, comme le disait Suzanne Sontag. C'était ça, Michou, prince bleu de Montmartre, vous l'avez dit, entre le dandysme à la Oscar Wilde et la campitude bleutée. Il avait 88 ans.
Merci à vous, Frédéric Martel. Très grande ligne météo. Demain, la perturbation ayant abordé le pays par l'ouest continuera sa lente progression vers l'intérieur des terres, située au lever du jour sur des régions allant du Grand Est vers la Bourgogne, le centre-val de Loire, l'Auvergne, les pays de la Loire jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Les précipitations aborderont les plaines du sud-ouest à la mi-journée. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau.